Alors, comme aujourd'hui, je vais beaucoup parler de l'évangile de Saint Jean, je vais lire un extrait de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc, l'Apocalypse, ça nous interpelle en ce moment. Et j'entendis une voix forte qui sortit du temple et qui dit aux sept anges, « Allez, répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange partit et répandit sa coupe sur la terre, et les hommes qui avaient le caractère de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'une plaie maligne et dangereuse. Le second ange répandit sa coupe sur la mer, et elle devint comme le sang d'un mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Le troisième ange répandit sa coupe sur les fleuves et sur les fontaines, et ce fut partout du sang. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de tourmenter les hommes par l'ardeur du feu. Et les hommes furent brûlés d'une chaleur dévorante. Le sixième ange répandit sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate, et ses eaux furent séchées. Et je vis sortir de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Le septième ange répandit sa coupe dans l'air et une voix forte se fit entendre du temple venant du trône qui dit « C'en est fait ». Aussitôt, il se fit des éclairs et un grand tremblement de terre et ce tremblement fut si grand que jamais les hommes n'en ont ressenti de pareil depuis qu'ils sont sur la terre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la santé et de la religion. En italien et en latin, d'ailleurs, la santé se dit « salute », c'est-à-dire que c'est le salut, en fait. C'est le même mot que le salut. Et le salut du corps et de l'âme, pour moi, sont indissociables. Et c'est l'un des thèmes fondamentaux, évidemment, du christianisme, qui permet ce salut d'accéder au paradis. Le salut dans le christianisme est associé au Christ, considéré comme le rédempteur de l'humanité. Et dans le catholicisme, il est offert par la grâce, les sacrements et les bonnes œuvres. Mais dans le protestantisme, il n'y a pas de sacrements et de bonnes œuvres, il y a juste la foi et la grâce qui est donnée au hasard. Ça correspond évidemment au dégoût des protestants pour tout ce qui se marchandisait, tout ce qui se vendait en matière de bonheur futur chez les catholiques à cette époque-là, et qui a donné évidemment la réforme. Alors là, je vais vous lire des extraits de l'évangile selon Saint Jean, enfin l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, par le disciple de Jean. Et ce sont des textes qui ont été extraits des manuscrits de la Mère Morte et qui viennent de la philosophie des Esséniens. Alors là, le texte que je vais lire est traduit par Edmond Bordeaux-Sekeli, qui est un érudit hongrois, un philosophe, qui avait un doctorat de philosophie, qui était professeur de philosophie et de psychologie à l'université dans des tas d'universités. Il parlait 16 langues, dont le sanskrit, l'araméen, l'hébreu, le grec et le latin, et beaucoup de langues modernes. Alors, de 1923 à 25, lorsque Sekeli était doctorant, il a été autorisé à consulter les archives secrètes du Vatican, où il a eu accès à des documents apocryphes en araméen, langue qu'il comprenait et qu'il pouvait traduire. Il a aussi eu, dans les années 50, accès au rouleau de la Mère Morte, ce qui lui a permis de traduire beaucoup d'anciens textes araméens. Et donc, selon lui, évidemment, tout ça est sujet à caution, c'est vraiment la pensée de Sekeli, mais je la trouve intéressante, très intéressante pour notre époque. Donc, ces textes lui montraient que les Esséniens, qui étaient donc les premiers chrétiens, lui dit-il, étaient végétariens et que le végétarisme était également enseigné par Jésus. Alors ensuite, il a travaillé avec Romain Rolland, donc le prix Nobel, et pour enseigner la philosophie des Esséniens. Donc je vais vous lire certains extraits de ce Évangile. Et c'est très frappant parce que, en fait, quand je suis tombée sur ces textes, j'ai compris que ce n'était pas du tout un évangile, c'était un manuel de santé, en fait. En fait, il semblerait que beaucoup de la religion première et beaucoup de la naissance de la religion avaient à voir avec la santé, avec l'entretien du corps autant que de l'esprit. Et alors, en plus, ce qui est très intéressant, nous avons décidé de publier les textes, les paroles authentiques originales de Jésus, traduites directement de l'araméen, langue parlée par Jésus et par Jean, son disciple bien-aimé. Et c'est une lourde responsabilité de déclarer que le Nouveau Testament, tel qu'il sert de base à toutes les églises chrétiennes, est déformé et falsifié. Et comme il n'y a pas de plus haute religion que celle de la vérité, lui, il a décidé de passer outre et de traduire comme il pouvait ces textes, comme il lui semblait qu'ils étaient en fait réels. Donc, la partie que je vais vous lire et qu'il publie, c'est à trait au ministère de guérison de Jésus, qui ne sont pas seulement... On connaît Jésus, bien sûr, pour toutes ses guérisons et ses miracles qu'il a accomplis. On ne sait pas assez que c'est aussi un grand médecin. Alors il dit, nous faisons paraître cette première tranche de manuscrit car elle contient des messages dont l'humanité souffrante, intéressant, a un urgent besoin à l'heure actuelle. Alors la première chose aussi qui m'a frappée, c'est que les premières paroles du Christ dans cet évangile sont « Heureux êtes-vous de vouloir échapper au pouvoir de Satan, car je vous conduirai dans le royaume des anges de notre mère, là où le pouvoir de Satan ne peut pénétrer. » Donc évidemment, il y a toute une vision assez dichotomique hein, entre le bien et le mal et Satan, etc., qu'on peut discuter. Mais bon, on peut aussi penser que le mal et le bien, c'est une dialectique, mais lui, il dit ça. Et grandement surpris, ils demandèrent « Où est notre mère et qui sont ces anges ? Où se trouve son royaume ?»« Votre mère est en vous et vous êtes en elle. C'est elle qui vous a enfanté et qui vous a donné la vie. » C'est à elle que vous êtes redevable de votre corps et c'est à elle que vous devrez le rendre un jour. Donc ça commence par une religion matriarcale, disons. Hein. Le corps, le sang qui coule dans vos veines, procède de notre mère la terre. Son sang tombe des nuages, jaillit du sein de la terre, murmure dans les ruisseaux des montagnes, coule largement dans les fleuves et les plaines, dort au sein des lacs et mugit avec force en les mers tempétueuses. L'air que nous respirons est né du respire de notre terre, la terre, de notre mère, la terre. Son souffle est azuré dans les hauteurs des cieux. Il murmure au sommet des montagnes, susurre au travers des feuilles de la forêt, s'élève comme une houle au-dessus des champs de blé, sommeille dans les vallées profondes, brûle torride dans le désert. C'est aussi un texte extrêmement poétique. La rigidité de nos os provient de notre mère, la terre, des roches et des pierres. Alors ensuite, il dit que il parle des anges. Il dit aussi, si en vérité, si une fois seulement vous négligez de respecter ces lois, les lois d'obéissance à la terre-mère, vous nuisez une fois seulement, et si vous nuisez une fois seulement à l'un des membres de votre corps, vous tomberez impitoyablement dans l'une ou l'autre de vos graves maladies, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et celui qui s'attachera à respecter les lois de sa mère, la terre, c'est à celui-là que sa mère s'attachera. Car c'est votre mère qui vous a enfanté, et c'est elle qui vous maintient en vie, et qui maintient la vie en vous. Elle vous a donné votre corps, et personne d'autre qu'elle ne vous guérit. Donc déjà, c'est puissant comme changement de perspective, je trouve. Alors ensuite, il parle des Écritures. Et il dit, Jésus dit, « Ne cherchez pas la loi dans vos Écritures, car la loi est vie alors que l'Écriture est mort. Je vous le dis en vérité, Moïse n'a pas reçu de Dieu ses lois par l'Écriture, mais par la parole vivante. La loi est une parole de vie proférée par le Dieu de vie, transmise à des prophètes vivants pour des hommes vivants. Dans toute chose qui a vie se trouve écrite la loi. Vous la trouverez dans l'herbe, dans l'arbre, dans la rivière, dans la montagne, dans les oiseaux du ciel, dans les poissons, des lacs et des mers. Mais cherchez-la surtout en vous-même. là aussi, refus du dogme, de l'écrit et de l'exégèse au profit de la vie, et là presque même du biomimétisme, c'est-à-dire inspirons-nous de la vie qui grouille autour de nous et que nous ne voyons pas, dont nous croyons qu'elle n'est qu'en nous. Alors ensuite, suit un véritable manuel de médecine. Comme il parle au peuple, il emploie des mots comme les anges, évidemment pour nous ça, mais si on met d'autres mots sur quelques-uns de ces mots, c'est vraiment intéressant. Alors, les anges. Il dit « Régénérez-vous vous-même et jeûnez, car je vous le dis en vérité, Satan et ses maléfices ne peuvent être chassés que par le jeûne et la prière. Rentrez chez vous et jeûnez dans la solitude, ne laissant rien voir à personne que vous jeûnez. » Donc, ne vous vantez pas de jeûner. Évidemment, ça fait très fort penser au carême. Et puis, au ramadan, qui est complètement n'importe quoi maintenant, qui est complètement dévoyé sa puissance originelle, mais qui... Donc, ça traverse beaucoup de religions, cette histoire du jeûne. « Et jeûnez jusqu'à ce que Belzébuth et tous ses maléfices vous aient quittés et que tous les anges de notre mère la terre soient venus pour vous servir. Recherchez l'air pur de la forêt ou celui des champs, car c'est là, dans cette ambiance, que vous trouverez l'ange de l'air. » À Paris, à 6 heures du soir, on peut avoir envie de l'ange de l'air. « Déchaussez-vous, quittez vos habits et laissez l'ange de l'air embrasser tout votre corps, puis respirez lentement et profondément afin que l'ange de l'air puisse pénétrer en vous. Après l'ange de l'air, recherchez l'ange de l'eau. Enlevez vos souliers et vos habits et laissez l'ange de l'eau embrasser tout votre corps. » Alors là, évidemment, on pense bien sûr au baptême et à toutes les ablutions, que ce soit dans l'islam ou dans le Gange, toutes les traditions qui font de l'eau un élément sacré et purificateur. Alors ensuite, ne vous imaginez pas, alors ça c'est encore plus surprenant, ne vous imaginez pas qu'il soit suffisant que l'ange de l'eau vous embrasse extérieurement seulement. Je vous le dis en vérité, l'impureté intérieure est encore plus grande que l'impureté extérieure. Alors je vous passe les détails, mais il dit qu'il faut se procurer une grosse calebasse, etc., et qu'il nous dit exactement comment il faut faire avec l'eau chauffée au soleil pour faire des lavements et se laver l'intérieur, ce qui est aussi quelque chose que certains médecins naturistes, dont certains médecins naturistes, parce que c'est très très important de le faire. Et là, c'est noir sur blanc. Alors ensuite, et après cela, s'il demeure en vous quelques traces d'impureté, étant donné vos péchés antérieurs, c'est-à-dire la mauvaise santé qu'on a acquise par un certain nombre de comportements, faites appel à l'ange de la lumière solaire, déchaussez-vous, dévêtez-vous et souffrez que l'ange de la lumière solaire embrasse tout votre corps. Alors on pense évidemment à la vitamine D. Voilà. Donc tout ça, ce sont des préceptes qui sont apparemment religieux, mais qui sont vraiment les deux. Le soin du corps et de l'esprit, liés. Alors il parle aussi de l'ange de la terre et il propose des bains de boue, carrément des bains de boue. Alors après il passe à toute l'alimentation. C'est intéressant parce que voilà, je vous ai donné chaque herbe portant semence qui se trouve sur la surface de toute la terre et chaque arbre sur lequel est le fruit de votre arbre portant graines. Pour vous, faites-en votre nourriture. Donc les graines, l'essence. La graine étant comme une espèce de disque dur de ce qui va ensuite arriver à la plante, contient tout le programme informatique de ce qui va devenir vivant et qui va devenir énorme souvent. Et à chaque animal sur terre, à chaque oiseau dans l'air et à tout ce qui rampe sur la terre, à toutes ces bêtes dans lesquelles il y a un souffle de vie, je leur donne toute herbe verte pour nourriture. De plus, le lait de chaque bête qui se meut et vit sur la terre sera pour vous une nourriture au même titre que je leur ai donné l'herbe verte, et ainsi je vous donne le lait. Quant à la chair et au sang qui vivifient les animaux, vous ne devez pas en manger. Et certes, je vous demanderai compte de leur sang bouillonnant, de leur sang dans lequel demeure l'âme. Je vous demanderai compte pour chaque animal tué, de même que pour les âmes de tous les hommes tués. Alors ensuite, suivent aussi des préceptes sur la manière de manger. Je passe un peu, parce qu'il y a tellement de choses, mais ne consommez pas d'aliments impurs qui sont apportés de contrées lointaines, biolocales. Mais mangez tout ce que vos arbres produisent. Et de fait, la force des anges de Dieu entre en vous avec les aliments vivants que le Seigneur vous offre à sa table royale. Aussi, lorsque vous prenez votre repas, pensez que vous avez au-dessus de vous l'ange de l'air et au-dessous de vous l'ange de l'eau. Chaque fois que vous mangez, respirez lentement et profondément afin que l'ange de l'air puisse bénir vos repas. Et surtout, mastiquez bien votre nourriture avec vos dents jusqu'à ce qu'elle prenne une consistance fluide et que l'ange de l'eau la transforme en sang dans votre organisme. Et ça, ça rejoint les préceptes de la macrobiotique zen qui disent qu'il faut mâcher 40 fois chaque bouchée et à chaque dixième de fois, elle change de goût et qu'il faut boire son manger et manger son boire, c'est-à-dire boire en sirotant comme les animaux. Voilà, ça aussi, ça rejoint d'autres religions. Aussi, arrêtez-vous de manger juste avant que vous n'ayez plus faim, juste un petit peu avant, et mangez que quand vous avez de l'appétit, et mangez sans stress. Il propose aussi un jour de jeûne par semaine. Il propose aussi de dormir paisiblement et de laisser les anges du sommeil faire leur travail. Ça, c'est Freud, hein. C'est-à-dire que les rêves nous parlent et nettoient notre cerveau aussi sans que nous ayons besoin de trop verbaliser ou rationaliser cela. Mais laissons faire les forces du sommeil, les forces cachées en nous qui peuvent réparer, qui réparent. Voilà, ça c'était sur l'évangile de Jean. Et puis, ensuite, est-ce que j'ai encore le temps, ça va ? Oui. Je voudrais vous lire vous raconter quelques histoires des aborigènes. Parce que il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Message des hommes vrais aux hommes mutants ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un livre d'une américaine qui s'appelle Marlo Morgan. Marlo Morgan était une femme un peu d'affaires, comme ça, qui était aussi psychothérapeute, mais qui avait décidé d'être bienfaisante et de s'occuper des aborigènes. Elle aimait beaucoup les aborigènes et tout ça. Alors, mais une bourgeoise, quoi, une femme très, très bien, très... Et alors, elle est invitée par une tribu australienne à se rendre avec eux pour une fête. Donc, elle y va. Elle a son petit costume en soie beige, son sac, sa carte de crédit, ses clés, etc. Et elle les rejoint et elle part avec eux, toute contente d'assister à une fête aborigène, puisqu'ils lui disent, puisque tu nous aimes et que tu travailles pour nous, on va te mettre dans une fête aborigène. Et donc... ils partent dans un jeep, et puis tout d'un coup ils quittent la route et ils commencent à conduire dans le bush, dans le désert, et ça dure des heures et des heures, et elle se dit mais comment est-ce que je vais retrouver, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Bon, et puis elle arrive là-bas et il y a toute une tribu qui l'accueille et qui lui dit maintenant on va te faire le rite de notre tribu, alors si tu veux bien on va te donner des nouveaux habits. Alors ils la cachent très soigneusement avec un tissu, puis ils disent enlève tes habits, donne-nous ton sac tout et habille-toi avec, comme nous, de choses très simples. Donc elle fait ça, toute contente, tout ça, et puis tout d'un coup elle sent une odeur de feu. Elle se dit c'est quoi, et ils font un feu. Et elle regarde, et dans le feu, il y avait son petit costume beige en soie, son sac, ses clés, sa carte de crédit, tout a brûlé. Tout, ils ont tout brûlé. Et ils ont dit, mais maintenant, tu vas marcher avec nous. Donc, là, elle a été complètement piégée, obligée de dire oui. Elle était assez effarée au départ. Et puis, bon, elle est quand même, quelque chose lui a dit de continuer. Et elle a marché avec eux pendant 3 mois. 3 mois, ça paraît peu dans une vie, mais pour elle, évidemment, pour quelqu'un comme nous, tous, sans chaussures, dans le désert, elle a dû vivre exactement ce que vivent les aborigènes. Et alors, elle en est ressortie avec un livre. Alors, beaucoup de gens contestent la véracité de ce livre, et c'est possible que ça soit juste une fiction. En tout cas, elle est très belle. Et elle raconte un certain nombre de choses qui lui sont arrivées pendant ce voyage. Et elle dit, elle raconte par exemple sur les bijoux, qu'un jour une jeune fille s'écarta de la file qui marchait pour entrer dans une touffe de grandes herbes sèches. Et dans cette touffe d'herbe, elle avait trouvé une très belle fleur, jaune. Et donc elle s'est attachée cette fleur autour du cou, et la fleur dansait comme ça sur sa poitrine, et elle disait, regardez, je suis belle, je suis jeune, je suis belle. Et tout le monde trouvait qu'elle était très belle, et lui a dit qu'elle était vraiment belle et qu'elle avait fait le bon choix avec ce bijou. Et puis, pendant qu'elle regardait ça, Marlo Morgan, elle se souvenait d'une femme à New York qui avait une magnifique rivière de diamants, une vraie rivière de diamants qui coûtait une fortune, absolument une fortune, et que cette femme était torturée par cette rivière de diamants parce qu'il lui fallait l'assurer, la mettre dans un coffre, l'assurer très cher, et tout d'un coup, l'assurance avait décidé qu'elle devait payer $800 par mois pour assurer ce collier. Donc elle avait fait faire, pour diminuer l'assurance, pour ne pas le sortir, jamais le sortir, un faux collier en verre qu'elle portait quand elle avait besoin de sortir et de montrer son collier. Et en fait, elle n'avait tout le temps que la peur au ventre de, qu'il y ait, je sais pas, une attaque de banque ou qu'elle perde ce collier. Et le soir dans le désert de cette journée, la jeune fille aborigène, elle a déposé la fleur sur le sol pour la laisser retourner à notre mère, la terre. Elle avait joué son rôle, la fleur. La jeune fille lui en était reconnaissante et garderait en mémoire le souvenir de l'attention de tous. Et elle avait eu la confirmation qu'elle était séduisante, belle, qu'elle pouvait plaire à quelqu'un, être choisie. Mais elle ne s'était pas du tout attachée à l'objet. Pourtant, elle aimait les fleurs, mais voilà, les fleurs, c'était pas ça. C'était l'immatériel de ça qui comptait. Et elle conclut, le bijou de cette dernière avait une signification, les nôtres n'ont qu'une valeur vénale. Et puis, elle raconte aussi une histoire qui lui est arrivée. Elle était enterrée vivante parce qu'elle marchait avec eux, ça allait mieux, elle avait d'énormes cales sous les pieds. Et puis, mais il y avait un truc bizarre, c'est qu'il y avait des coyotes. Il y avait une petite bande de 5 ou 6 coyotes qui n'arrêtaient pas de les suivre. Et alors elle demande aux anciens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils me suivent? Pourquoi est-ce qu'ils vous suivent? Enfin, c'est pas normal. Et les autres, ils disent, non, c'est pas normal, non. C'est pas normal parce que, en fait, c'est parce que vous puez. Et donc les coyotes pensent que nous transportons de la chair avariée. Alors, elle dit, mais ils n'ont pas eu, ils étaient très gentils, ça les incommodait bien entendu, mais ce n'était pas ça qui les incommodait. Ce qui les incommodait, c'était que les pauvres coyotes marchaient depuis tant de temps derrière quelqu'un où il n'y aurait pas de viande avariée, il n'y aurait rien, parce qu'ils s'étaient trompés. Donc elle a dit, écoutez, je ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas possible, je ne vais pas vous empuanter comme ça. En fait, c'est parce qu'elle mangeait comme ce que mangeaient les autres, mais elle avait tellement de toxines accumulées depuis tellement d'années dans son corps que même les autres, même s'ils ne se lavaient pas, ils ne sentaient rien. Donc ils ont dit, il y a un remède. Alors ils ont creusé un trou à peu près de sa longueur, enfin, et ils l'ont enterrée vivante pendant 4-5 heures. Et c'était très dur pour elle parce qu'elle avait peur que quelqu'un vienne manger sa tête ou quoi, mais puis elle ne pouvait pas du tout en sortir. Et au bout de ces heures-là, ils l'ont déterrée. Et elle n'a plus jamais senti mauvais. Donc c'était comme, c'est l'ange de la terre, c'est la terre répare. Et la terre avait réparé ses toxines. Et puis il y a plein d'histoires encore, mais je ne vais pas toutes les raconter. Mais il y a l'histoire de la musique aussi. Les aborigènes, quand ils marchent, ils fabriquent des instruments de musique. Alors ils creusent des calebasses, ils prennent les graines. Et puis ils font des didgeridoo avec des branches. Et puis, ils travaillent pendant plusieurs jours à faire des beaux instruments. Et puis, ils font une fête, ils chantent, ils dansent. Ils sont très, très, très pleins d'humour et pleins de chants et de danse. Ils chantent très bien. Et puis, ils font la teuf, comme ça. Et à la fin, le lendemain, quand c'est fini, ils laissent leurs instruments au sol, alors que c'est des beaux instruments. Ils replantent les graines qu'ils ont enlevées du fruit. Ils mettent une petite inscription sur la roche en disant, là, il y a des instruments. Et ils partent sans instrument. Parce que ce qui était important, ce n'est pas l'instrument, c'est ce qui en est sorti. Ce qui en est sorti et ce qui a été la fête ensemble. Là, il y a aussi un dernier truc que je veux dire, c'est sur les anniversaires. Ils ne sont pas du tout dans les anniversaires. Vous savez, le truc obligé, tous les ans, il faut faire des cadeaux, tout ça. Eux, c'est quelqu'un, quand il sent qu'il a évolué, quand il sent qu'il a fait un progrès dans sa tête ou qu'il a compris des trucs ou des conflits qu'il a réglés, il dit, oh là, je voudrais mon anniversaire aujourd'hui, j'ai réglé un problème, j'ai avancé. Et on lui fait une fête parce qu'il a avancé spirituellement et non pas parce que c'est une obligation. Alors ensuite, elle est rentrée aux États-Unis parce que bon, elle a eu beaucoup de mal parce que évidemment, elle n'avait plus de clé, plus d'argent, plus rien. Elle était complètement comme une clocharde. Mais bon, elle s'est remise, elle lui a envoyé des sous et tout ça, et elle est revenue en avion. Et elle dit, dans l'avion qui me ramenait aux États-Unis, mon voisin engagea la conversation. C'était un homme d'affaires d'âge mûr, avec une de ces bedaines distendues qui paraissent toujours sur le point d'exploser. Grodeck, le grand psychanalyste, a une explication pour les bedaines des hommes. Il dit, jusqu'à 60 ans, les hommes pensent que, malgré tout, ils vont pouvoir avoir un enfant dans leur ventre. Malgré tout. Enfin, tout les contredit, mais quand même, dans leur tête, ils pensent. Et puis quand vraiment, au moment de l'andropause, ils comprennent que non, ils n'auront pas d'enfant, alors ils poussent une bedaine. Voilà. Alors dans l'avion, donc, c'était un homme d'affaires qui avait... Nous abordâmes divers sujets, pour finir, par les aborigènes. Et je lui parlais de mon expérience en compagnie des marcheurs du désert. Il écouta avec attention, mais me fit une remarque qui semblait résumer toutes les réactions obtenues jusqu'alors. Écoutez. Personne ne savait que ces gens-là existaient. Vous me dites qu'ils vont disparaître. Bon, ben alors, franchement, je pense que tout le monde s'en fout. Et puis, c'est leurs idées contre les nôtres. Et comment une société tout entière pourrait-elle être dans l'erreur ? À méditer. Une société tout entière peut être dans l'erreur. Et j'ai encore... Ça va ? Je peux continuer encore un petit peu ? Un tout petit peu. D'accord. Alors, juste, simplement, sur la sagesse des Indiens, qui disent... alors là, c'est vraiment... C'est pour relier la sagesse des Indiens avec avec les plaies d'Égypte, et avec tout ce qui... La deuxième plaie d'Égypte, hein, on sait que c'est les grenouilles. Et tout à l'heure, on a vu aussi comment les grenouilles étaient maléfiques quand elles n'ont plus leur biotope. Et donc, lui, il dit le dollar, c'est la peau de grenouille des Blancs. Je peux continuer des heures encore, hein, mais je vais m'arrêter là. Pour une autre fois. Non, je ne peux pas résister quand même. Non. Ça, c'est dans le Tao, ça. L'humilité de l'eau. La bonté transcendante est comme l'eau. L'eau aime faire du bien à tous les êtres. Elle ne lutte pour aucune forme ou position définie, mais se met dans les lieux bas dont personne ne veut. En ce faisant, elle est l'image du principe, du Tao. À son exemple, ceux qui imitent le principe s'abaissent, se creusent, sont bienfaisants, sincères, réglés, efficaces et se conforment au temps. Ils ne luttent pas pour leur intérêt propre, mais cèdent. Aussi n'éprouvent-ils aucune contradiction. »